On parle parfois des milieux difficiles. Moi-même, je fais un cours qui s'appelle Enseigner en milieu difficile. Et l'idée de milieu difficile, c'est presque devenu quelque chose de substantiel. Voilà. Il y aurait des milieux difficiles. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de se demander, mais difficile pour qui ? Parce qu'évidemment, les enseignants ont l'impression que c'est pour eux. Les élèves ont l'impression que c'est pour eux. Les chefs d'établissement ont l'impression que c'est pour eux. Les parents aussi. L'idée est d'essayer de regarder si ces difficultés n'auraient pas des origines, voire des structures communes. C'est un peu l'exercice auquel je vais me livrer là, devant
les inégalités, pour toi, c'est quand même, ça reste le fondement d'une analyse pertinente sur les difficultés des élèves.
Je crois que ça reste le fondement, parce que si ces inégalités n'étaient pas avérées et persistantes, on peut imaginer que bien des difficultés seraient levées. Et on peut d'ailleurs imaginer aussi que si des difficultés étaient levées, les inégalités ne seraient pas persistantes. Pour s'en tenir simplement au point de vue des élèves, on voit qu'ils décryptent très souvent et très largement le monde scolaire à travers une vision de la justice. J'insisterai pas là-dessus, mais j'ai pas mal travaillé cette question. Beaucoup d'élèves estiment que ce système est injuste, et les sociologues ne leur donnent pas tort. Ils pensent qu'ils ne sont pas payés en fonction des efforts qu'ils ont consentis, etc. Donc oui, en effet, cette question des inégalités, elle me paraît prégnante, et je dirais malheureusement pour nous et notre système éducatif, enquête internationale, vous pouvez peut-être voir derrière moi un petit compte-rendu de la Cour des comptes sur les résultats de l'enquête PISA 2000-2009, qui présente plusieurs caractéristiques. Hein. La première caractéristique, c'est qu'il y a une détérioration préoccupante du PISA repris par la Cour des comptes, reprise par la Cour des comptes, entre les élèves. Une stagnation, voire une régression des performances de la France, voilà, qui, au début des années 2000, se tenait à peu près dans les trois secteurs où cette enquête s'exerce, dans une honnête moyenne, on va dire, mais a tendance à baisser. Donc ça, c'est un premier indicateur qui est un peu inquiétant. Le deuxième aspect, c'est que le fossé se creuse entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. Et le troisième aspect, mais évidemment, tout ça va ensemble, c'est que le système scolaire français est un des systèmes dans lesquels les résultats scolaires sont les plus corrélés aux origines sociales et culturelles et socio-économiques des élèves.
Voilà. Dit autrement, ça veut dire que ce n'est pas parce que les inégalités sociales sont plus graves en France que les inégalités devant l'école sont plus graves. Votre analyse, c'est bien, à partir de ces chiffres, qu'il y a des facteurs internes qui font que les inégalités sont encore augmentées.
Voilà, c'est ça, et je vais y venir, c'est tout à fait ça. L'OCDE fait remarquer que la France se situe derrière. Alors après, on peut toujours contester l'appareil de mesure, certains l'ont fait, mais quand l'appareil de mesure existe et qu'on compare au fil des années et que les résultats vont dans le même sens, ça interroge tout de même. Ce que dit PISA, c'est que si on regarde le produit intérieur brut par habitant, la France se trouve derrière un certain nombre de pays qui ont des PIB moindres. Donc l'idée que ça viendrait de l'économie ou de ces structures, je vais y venir, évidemment, elle ne pèse pas rien, mais elle est loin d'expliquer, et on peut, et parfois on nous reproche ça à notre équipe, mettre en cause l'école elle-même, non pas dans la production, mais dans sans doute l'aggravation des inégalités dans les apprentissages et dans ce qui en sort, c'est-à-dire les certifications et les positions sociales qu'elles permettent d'obtenir. Alors nous avons bricolé une notion, c'est Jean-Yves Rochex et Elisabeth Bautier qui en ont été les pionniers, qui est la notion de malentendu socio-cognitif. Alors elle est un peu raide comme ça à asséner dans un exposé relativement limité. Mais l'idée, c'est que, on pourrait imaginer que ni les élèves ne sont des résistants qui n'ont pas envie d'apprendre, ni les familles ne sont, et les familles de milieux populaires ne sont des gens qui se moquent des études et de la scolarité de leurs enfants, ni les enseignants ne sont des gens qui ne pensent qu'à leur congé payé, à leur retraite, et ne font pas ce qu'il faut pour enseigner. Notre idée, c'est qu'il y a à un moment donné des raccordements qui ne se font pas entre ces différents acteurs, et que, et c'est là où c'est un peu poignant, c'est que chacun peut être tout à fait bien intentionné et avoir l'impression de faire ce qu'il faut, sans que pour autant les résultats attendus soient présents.
Ils sont dans le même espace, mais leur activité...
ils sont dans le même espace, d'où l'idée de malentendu. Le malentendu, c'est quand une personne et l'autre pensent faire la même chose, mais elles le font dans des logiques différentes. Et socio-cognitif, pourquoi ? Parce qu'un des problèmes de l'école, mais c'est consubstantiel, c'est qu'évidemment elle est dans des logiques de l'apprentissage, du cognitif, mais elle aussi dans des logiques sociales, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages de rôle, il y a des finalités de l'école, et qu'il peut y avoir parfois des interférences que les gens n'aperçoivent pas. Pour prendre les choses très, donner des exemples très simples. Là, je m'adosse surtout aux travaux de Stéphane Bonnery, par exemple. Il vous montre comment des élèves qui sont tout à fait de milieu populaire, qui sont tout à fait loyaux envers l'école, qui ont l'impression de faire tout ce que le maître ou la maîtresse demande, au fur et à mesure que les exigences vont augmenter, ne comprennent pas pourquoi ils ont des sales notes et vont interpréter en termes d'injustice, voire en termes de racisme, dans les cas extrêmes, le fait que, alors qu'ils ont toujours fait ce qu'on leur a demandé, ça ne leur réussit plus. Voilà. Il y a une manière de ne pas saisir l'évolution de ce que certains pourraient appeler les contrats didactiques, qui fait que bien se comporter à l'école, être poli, être loyal envers le système, évidemment ça ne suffit pas, même si c'est aussi une condition nécessaire.
Ça part aussi de votre idée que les savoirs de la vie et les savoirs de l'école n'étant pas de même nature, il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas de soi.
Alors voilà, c'est justement le point auquel je vais en venir. Hein. Les élèves de l'éducation prioritaire et la forme scolaire, j'ai là repris une citation d'Olivier Reboul qui dit « S'il existe des écoles, c'est précisément parce que la vie n'en est pas une. » Voilà. Ça, je crois que c'est un point sur lequel on n'insiste jamais assez. C'est que la manière d'être et d'apprendre à l'école, ce n'est pas la manière d'être et d'apprendre dans le reste de la société, même si évidemment l'école est elle aussi dans la société.
Ça veut dire que même les gens qui disent qu'il faut davantage ouvrir l'école sur la vie, finalement, vous regardez ça vraiment différemment.
Et on regarde ça différemment parce que si ouvrir l'école sur la vie, c'est faire à l'école la même chose que ce qu'on fait dans la vie, on ne voit plus vraiment pourquoi il y aurait besoin d'école. Alors, de là à faire passer le balancier de l'autre côté, à penser que l'école doit être un sanctuaire qui n'a rien à voir avec la vie et la société, évidemment, il y a un extrême, mais on a du mal à tenir la part égale entre les deux. Je crois que notre système, aujourd'hui, se cherche beaucoup entre des innovateurs à tout près, on va dire, qui pensent que l'école fait toujours bien quand elle fait autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire, ou d'autres qui pensent qu'il faudrait revenir à la plume sergent-major et à des manières de faire qui ont un certain succès, mais il y a 200 ans de ça. Pour ce faire, nous empruntons, alors peut-être en la tordant, je n'en sais rien, à Guy Vincent qui l'a initié et développé, la notion de forme scolaire, que vous voyez sans doute derrière moi, et qui est cette idée que à l'école, il y a des manières de faire, et notamment des manières de faire avec les règles. Voilà. Ça veut dire qu'on apprend à l'extérieur de l'école. Si j'apprends à pêcher à la ligne, si je suis un enfant, avec mon grand-père ou avec ma grand-mère, pourquoi pas, je vais apprendre des choses qui sont de vrais apprentissages, mais ça ne va pas, par exemple, donner lieu à examen, il n'y aura pas des séquences qui auront été prévues pour ça, il n'y aura pas des révisions, je ne vais pas pouvoir contester les modes de faire qui me sont appris parce qu'il n'y a pas de règles impersonnelles qui soient au-dessus de nous, il y a des choses qui relèvent du feeling, de l'expérience accumulée. Au fond, je ne pourrai jamais faire la preuve, sinon en fonction de la réserve de poisson qui y est trouvée à la fin. Mais est-ce que ça dépend de la méthode de pêche ou est-ce que ça dépend de l'endroit dans lequel ça s'est produit? Vous voyez, il y a là des choses qui relèvent de modes d'apprentissage pragmatiques, tout à fait féconds, mais qui ne sont pas ceux de l'école. En particulier, l'école protège les enfants. Alors, elle les protège socialement par rapport à une époque où ils étaient à la production très vite, mais elle les protège aussi parce que les écoles qu'elle organise sont ce qu'on appelle parfois des épreuves papier-crayon. Si vous faites une erreur dans le calcul des horaires de train, vous ne faites pas une catastrophe dans la vraie vie, oui. Donc, il y a cet aspect un peu curieux qui est que l'école a pour but de former des gens pour la vraie vie, mais en même temps, elle les forme pour la vraie vie avec des manières qui ne sont pas celles de la vraie vie, sinon elle ne pourrait pas les former. Il y a un paradoxe total qu'on pourrait illustrer encore par le fait que, c'est un exemple que je donne parfois, à l'école, il faut prendre l'habitude, accepter que les gens qui posent des questions sont des gens qui connaissent les réponses et qui les posent à des élèves qui ne sont pas censés les connaître. Dans la vraie vie, si je demande mon chemin, j'espère que je le pose... Alors, vraiment, je ne connais pas mon chemin, sinon c'est pour la caméra cachée. Et j'espère que je pose cette question à des gens qui connaissent le chemin et qui vont me répondre. Voilà. L'école inverse les facteurs. Il y a une fiction, hein, qui est une fiction tout à fait nécessaire et que les élèves normalement admettent, mais peut-être jusqu'à un certain point et peut-être pas de manière aussi évidente. J'ai pris, que vous voyez derrière moi, là, un extrait d'un petit roman que je viens de lire récemment, voilà, qui est celui d'une jeune collégienne qui s'étonne, hein, qui est une bonne élève et qui s'étonne, elle dit ça, elle dit « Il faut dire oui monsieur, il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent, appelle sans envoyer une espèce de hiérarchie des actes, hein, de manière audible, attendre que monsieur Marin donne le signal pour se lever quand retentit la sonnerie. » Ah oui, on ne se lève pas quand on veut. « Ne pas balancer les pieds sous sa chaise, ne pas regarder son portable pendant les cours, ni jeter un œil à la pendule de la salle, ne pas faire des tortillons avec ses cheveux, ne pas faire de messe basse avec son voisin ou sa voisine, ne pas avoir les fesses à l'air, ni le nombril. Il faut lever le doigt pour prendre la parole, avoir les épaules couvertes même s'il fait 40 degrés, ne pas mâchonner son stylo et encore moins une chewing-gum, et j'en passe. Voilà comment on peut apparaître l'école, ici évidemment sur le mode plaisant, mais comme un univers de contraintes fortes, hein, contraintes des corps, contraintes des manières de faire, qui va très bien pour des élèves qui arrivent déjà élèves à l'école. Nous, nos enfants enseignants, ils sont déjà très formatés par toutes sortes de conversations et d'activités pédagogiques diverses et variées qui n'arrêtent jamais en famille. Il faut bien imaginer que ce n'est pas le cas pour les élèves dits de milieux difficiles et que c'est peut-être un élément important de leurs difficultés. Le petit texte suivant, je l'ai emprunté à Bernard Lahire hein, dans un texte consacré au rapport à l'écriture des enfants de milieu ouvrier. Et ça répond un peu à la question que tu m'as posée. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais à une époque, les enseignants demandaient souvent, lorsqu'ils voulaient obtenir des rédactions du texte de la part de leurs élèves, de raconter les événements qu'ils avaient vécus. Au moins, on n'allait pas parler de la Joconde ou de je ne sais quelle structure abstraite. On allait parler de choses qu'ils connaissaient. Et on pouvait imaginer, dans un souci de démocratie, qu'on allait mettre à leur portée l'exercice. Le problème, c'est que ça peut s'avérer un piège redoutable. Parce que pour les élèves, raconter un moment agréable ou désagréable de ses vacances, si c'est raconté comme dans la vie sociale, lorsqu'il raconte à ses copains ou à ses proches, ça n'a pas du tout les mêmes attentes que celles de la rédaction, qui est un genre qui suppose de la décontextualisation, qui suppose de la hiérarchisation, qui suppose certains temps particuliers, le passé simple qu'on n'emploie plus jamais dans la vie, qui suppose une conclusion en forme de morale. Voilà, il y a tout un appareil qui paraît évident au lettré, mais qui n'est pas forcément. Et ce gamin de CM1, père ouvrier, mère sans profession, voilà le texte qu'il produit, et Laïa nous en donne beaucoup de ce genre. Je suis parti à Cublis. Alors, on dit que c'est un petit village situé dans la Loire, mais il est évident que pour le gamin, Cublis, tout le monde connaît, hein, puisqu'il y habite ses grands-parents, etc. J'étais avec mes sœurs, alors pas de commentaire sur l'orthographe, c'est encore une autre histoire. Ma mère, mon père. Une fois, ma mère m'a acheté un ballon de plage. Alors je lui ai dit merci. Ma petite sœur a appris à marcher. À la base, j'étais contente et je la faisais marcher un jour. J'ai été à la plage me baigner. Un jour, ma mère m'avait engelé parce que j'avais été à la plage. Une fois, j'ai fait le tour du lac en vélo avec ma copine. Puis j'ai ramassé des fleurs à ma mère. Elle me disa merci pour faire le tour du lac, il faut 1h30. Alors je suis arrivé pour manger. J'avais amené mes patins à roulettes. Ma mère m'avait acheté des bonbons. Je lui ai dit merci. Puis le soir, je me couchais à 10h, on avait la thé. Je ne comprends pas bien la fin s'ils se couchent à 10h parce qu'ils avaient la télé ou parce qu'ils n'avaient
pas la télé.
Je suppose que c'est qu'on ne l'avait pas, ce qui veut dire qu'ils se couchent plus tard d'habitude. Mais on a un gamin tout à fait civil, qui est extrêmement gentil avec sa maman, qui ramasse des fleurs, qui est socialement tout à fait positif. Le problème, c'est que pour lui, voilà, il y a cet effet de leurre, hein, je crois qu'on peut aller jusque-là, qui fait qu'en racontant ses vacances sur le mode de la juxtaposition, sur le mode de la connivence avec des proches, et évidemment, il passe très très largement à côté des exigences minimales de l'écrit scolaire.